Non, on était après Barkhane. Ouais, on t'a. Oui, c'est ça. Et mettre, admettre, juste une seconde que je m'organise. Le?
Vas-y. T'as
Ouais, ils sont
stress.
là-bas. Ouais. C'est Netzach Israël, Chelek Aleph. Ah, une seconde. Bonsoir, on va commencer juste le temps que je m'organise. Ça
Attends.
ne vous dérange pas. Alors, on est au milieu du. Non, non. On est au milieu du Périclès. Vous avez la nouvelle édition de la Hartmann. C'est. On est. On est Tzadik Bet. Tzadik Bet. Sadré, il la baillou la Spacianus. D'accord. D'accord. Ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je mette le texte du Maharal? S'il y a quelqu'un qui a besoin, je peux faire un.
Oh, c'est bon, enfin, moi je le sais faire.
D'accord. Et Reskel, si tu as besoin, tu peux me faire signe, je pourrais faire un partage d'écran si nécessaire. Une seconde. D'accord. OK. Alors, donc on était en train de raconter le récit de la destruction d'Hérusalem. Et donc, il y a Vespasien à Spasianus qui fait le siège de s'appelle pardon, une seconde, qui fait le siège de Jérusalem 3 ans durant. 3 ans durant. Il fait pendant 3 ans. Et à Jérusalem, il avait trois hommes riches. Plata attiré, Shlosha Achirim, Nagdimon Ben Goriam, Ben Tadrasavua et Ben Tzitzit Akeset. Alors, il dit, c'est quoi Nagdimon Ben Gorion? C'est que le soleil, il a brillé pour lui. C'est une histoire où le soleil, il a brillé spécialement pour Nagdimon Ben Gorion. Ben Calva Savoie, donc littéralement le fils du chien rassasié, tout celui qui rentre dans sa maison quand il est affamé, eh bien, il en sort rassasié. On avait dit que l'idée du chien, c'est que le chien, c'est un animal sauvage, mais qui a perdu le savoir-faire. Il ne sait plus, il ne sait plus se débrouiller sa propre nourriture. Il ne sait plus se débrouiller sa propre nourriture, donc ça c'est pour ça qu'on parle d'un chien affamé, parce que le chien c'est l'animal qui a le plus faim, et que malgré tout il sort quand il est rassasié. Ben Tzitzit Akeset, première explication, c'est Tzitziot, il traînait sur des coussins, ça veut dire qu'il avait des très longs habits, mais ces longs habits, les habits longs c'est un signe. C'était à l'époque un signe de raffinement. L'homme qui travaillait dans le champ, il avait des habits courts, elle nous dit la Gemara, dans Shabbat. L'homme qui travaille dans les champs, il a des habits courts. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont traîner par terre. L'homme qui a des habits longs, il ne peut pas travailler dans les champs. Et Nagdimon, c'était un homme des villes. Et donc, il avait des habits tellement longs qu'il traînait par terre. Mais il traînait par terre, mais il ne traînait pas par terre. Il traînait sur des ksatot, sur des coussins. Donc, un homme d'un raffinement extrême. Il y en a qui disent une autre expression, c'est que Shayak Souto, Moutelad Ben Gdoleromi, ses habits, il avait un coussin, il avait un siège parmi les grands de Rome. C'était quelqu'un d'extrêmement affluent. Et donc, ces trois riches-là, ils ont proposé une solution au siège. Première solution, il y en a un qui a dit, je vais nourrir tout le monde. En donnant du blé et de l'or. Le deuxième, il a dit, je donnerai du vin et de l'huile. Le troisième, il a dit, moi, j'ai suffisamment de bois, de petits bois pour tout le monde. Et Chachamim, ils ont dit que celui qui a proposé du bois, vraiment, c'était la meilleure proposition. Pourquoi? Parce que Rav Frisda, on voit que toutes les charges, il est confié à son shamash, à son bedeau, à part le bois. Le bois, c'est quelque chose de trop important pour le laisser à quelqu'un d'autre. Parce que si on a du bois, on peut faire cuire. Et même des choses qui sont difficiles à manger, si on a du bois, on peut les faire cuire, on peut les ramollir jusqu'à qu'elles deviennent comestibles. Avec du bois, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Même la vieille nourriture qui est très dure, etc. Le bois, ça peut résoudre tous ces problèmes-là. D'ailleurs, Rav Frisda, il disait, une quantité de blé, elle nécessite 6 fois cette quantité-là en blé. Si j'ai 1 kilo en bois, si j'ai 1 kilo de blé, pour le faire cuire, j'ai besoin de 6 kilos de bois, etc., etc. Le rapport, il est de 1 pour 6. Donc, on a besoin de 6 fois plus de petits bois que de nourriture. Alors, collectivement, ils avaient de quoi nourrir tout le monde pendant 21 ans. Collectivement, ils pouvaient nourrir tout le Yerushalayim pendant 21 ans. Mais il y avait à Yerushalayim, en français, on les appelle les zélotes. Comme ça, c'est la traduction qu'on a, je pense que quand on a la traduction de Flavius, etc., on les appelle les zélotes ou les sikrikines. C'était des gens, des birionim, des gens violents qui voulaient aller à la guerre, qui voulaient aller au combat à tout prix. Chachamim, ils ont dit. D'accord. Alors, Chachamim, ils ont dit, puisque pendant 21 ans, on peut soutenir le siège, donc on est dans une position de force relative, on peut négocier. On peut négocier. C'est un grand principe qu'on ne négocie que dans une situation de force. Or, puisqu'on n'est pas, il y aura pas de famine pendant 21 ans, les Romains, ils vont pas faire de siège pendant 21 ans, donc on est en position de force, on peut négocier. Donc, négocions. Les Béryonim, ils ont dit non, on ne négocie pas. Alors, les Birionim, ils ont dit, faisons-leur la guerre. Chachamim, ils ont dit, on va se faire ratiboiser. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Birionim? Ils ont brûlé les réserves. Et du coup, il y a eu une famine 3 ans durant. Il y a eu une famine pendant 3 ans. Alors, cette histoire, elle est intéressante parce qu'il y a des thèmes qui sont des thèmes qui sont récurrents, justement. La première chose que le Maral y relève, c'est qu'on nous dit ils avaient de quoi nourrir pendant 21 ans. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Le siège, il a duré 3 ans. T'as qu'à dire, on avait de quoi nourrir tout le peuple à Jérusalem pendant 3 ans. Pourquoi il fallait 21 ans? Et encore une fois, ce que Chachamim dit, c'est pas des hasards. C'est pas par hasard il y avait de quoi nourrir le peuple juif pendant 21 ans. Non. Si Chachamim, il relève cette donnée-là, c'est que cette donnée, elle est importante. Et on nous dit aussi que le siège, il a duré 3 ans. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que le siège, il a duré 3 ans? Le siège, il a duré ce qu'il a duré. Et on nous dit qu'il y avait trois riches. Et ces trois riches-là, il y en a un qui donnait du pain, l'autre qui donnait du vin, de l'huile, du bois. On n'a pas trouvé qui donnait de la bière, on n'a pas trouvé qui donnait de la viande. Et logiquement, la viande, c'est plus important que le pain. Ouais. Pourquoi est-ce que la viande, c'est plus important que le pain? Je pense d'un point de vue nutritionnel, il y a une différence. La viande, elle donne des protéines. Le pain, il donne principalement des glucides. Les glucides, ils donnent de l'énergie, mais ils ne permettent pas de construire. C'est-à-dire que si on veut construire un nouveau corps, on veut se muscler, si on veut se préparer à la guerre, etc., le pain, il nourrit, c'est vrai, il donne de l'énergie, mais il ne permet pas de se développer. Il ne permet pas de se développer. C'est-à-dire que possiblement, ça, il faudrait demander, mais si on donnait à un enfant que des glucides, il serait incapable de se développer, de développer une musculature d'adulte. Donc la viande, quelque part, c'est plus important que le blé. Mais ça, il n'y avait pas. Il y avait du pain, il y avait du vin, il y avait de l'huile, il y avait du bois. Mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de viande. Pourquoi? Comment ça se fait?
Il y avait pas.
À Yerushalayim, les trois riches, il y en a un qui proposait du pain, l'autre il a proposé du vin et de l'huile, et le troisième il proposait du petit bois. Du petit bois. Parce que pendant la France, oui, pendant le siège, oui, on reprend là, on était la semaine dernière. Alors, le Maharal, il dit là-dessus, comme ça, sache que Yerushalayim, c'est un endroit de sainteté. Et puisque c'est comme ça, il était digne qu'elle soit conquise par les peuples en 3 ans. Le siège de Yerushalayim, il pouvait pas durer moins que 3 ans. Il ne pouvait pas durer moins que 3 ans. Pourquoi? Parce que Israël, ils sont quelque part, c'est Goy Echad, mais ils sont triples. Il y a 3 aspects du peuple juif. Il y a 3 avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a trois groupes dans le peuple juif. Kohanim, Lévim et Israélim. C'est pour ça que la Gemara, elle l'appelle Am Klitae, un peuple tierce. C'est-à-dire que c'est un peuple qui n'est pas homogène. Il a 3 aspects, il a 3 ascendants, etc., etc. Et puisque c'est un peuple qui est tierce, il ne peut pas être vaincu que s'il y a 3 problèmes qui sont résolus. Les goyim, pour vaincre le peuple juif, pour vaincre Yerushalayim, qui est le centre du peuple juif, ils ont besoin en fait de vaincre ces 3 aspects-là, qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov, Kohanim, Lévim et Israélim. Et par conséquent, pour vaincre ça, c'est 3 étapes différentes, et donc en fait, c'est 3 années. C'est 3 années. En 3 années, c'est en 3 années qu'on résout le peuple juif. Ouais. Et donc, c'est pour ça que ça a pris 3 ans pour que les goyim ils dépassent les défenses du peuple juif. C'est-à-dire que chaque année, il y avait un nouvel aspect du peuple juif qui s'effondrait, en fait. Pendant le siège, il y avait ces 3 aspects-là et se sont effondrés au fur et à mesure. Les trois facettes du peuple juif. Et comme on dit d'ailleurs, Yaakov révèle Nachalato, Yaakov la corde de son héritage, parce que Israël, c'est comme une corde qui a 3 brins. Si j'ai un brin, le brin, il peut se déchirer, on peut le déchirer relativement facilement. Mais Chuta Meshulash, donc la corde qui est triple, l'obemera inatek, elle ne se décrochera pas, elle ne se défera pas facilement. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait 3 ans. Alors, l'idée, elle est la suivante. Il y a une idée qui est mentionnée dans les Sfarim, c'est que on a un cycle qui s'appelle le cycle de la Shemitah. On a un cycle qui est le cycle de la semaine. Et on a un cycle qui est le cycle de la Shemitah. C'est quoi ce cycle? C'est un cycle comme dans la semaine, il y a 6 jours, il y a 6 jours de travail et un jour de repos. Dans les années, il y a aussi des jours de travail. Et ils correspondent ces années, en fait, aussi au jour de la création. Dieu, chaque jour, il a créé quelque chose de différent. Chaque année, chaque jour de la semaine, il correspond à un de ces aspects. Et chaque année de la Shemitah, il correspond de manière beaucoup plus importante à un des aspects de la création. Et 3 des aspects de la création, ils se sont incarnés chez les Avot. Le premier jour, c'est le point de départ. C'est le point de départ. On a déjà parlé de ça, que le début, c'est le Chesed, c'est Avraham. Avraham, c'est le grand pas en avant. C'est le grand pas en avant où c'est Avraham qui devient le premier des Guérim. Le premier à faire ce pas en avant, c'est Avraham. Ça, c'est le début. Une fois qu'on a commencé, alors, il y a un processus de pérennisation. Toute révolution a comme but et comme destin de se stabiliser, de s'embourgeoiser. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est Yitzhak. Yitzhak, qui vient fixer les règles. Yitzhak, c'est le din. Le din, c'est les règles, c'est la stabilité. Mais le problème, il est que trop de stabilité, ça vient tuer l'esprit de la révolution. Donc, on a Avraham qui est, on va dire en français, c'est la révolution, c'est l'innovation. Puis on a un processus de stabilisation, mais qui à terme risque de phagocyter, d'étouffer le chidouche qu'Abraham a incarné. Et là, il y a Yaakov, ça c'est le troisième jour de la création. C'est le moment où la synthèse elle se fait entre l'esprit créatif et la nécessité de stabilisation. Et donc, dans la Bria, c'est les 3 premiers jours de la création. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc., etc. Donc, et c'est la même chose dans la Shemitah. Chaque Shemitah, il y a ce même processus. Il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, et après, il y a Moshe, il y a Aaron, et il y a Yosef. Et après, il y a le Shabbat. Ouais, c'est comme le Ushpizin aussi, pour ceux qui ont l'habitude de dire le Ushpizin. C'est ce processus-là qui va de la création à la réalisation. Ça prend 7 jours. Mais le principal, c'est les 3 premiers jours. Création, stabilisation et harmonisation des 2 nécessités. Et donc ça, c'est le Icare du peuple juif. Et ces 3 ans-là, les 3 ans, ils correspondent aux 3 années de la Shemitah, où ces principes, ils sont mis en œuvre. Et les Romains, pendant 3 ans, en fait, il y avait un combat symbolique En étouffant Yerushalayim, ils ont étouffé ces démarches-là du peuple juif, et ils ont étouffé, si on veut, le koar d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, d'accord, on va parler de ça. Et d'ici, on regarde encore un autre aspect. C'est que ça a pris 21 jours, les 3 semaines. Une fois que. Donc, ça a pris 3 ans pour briser les défenses de la ville. Et à l'intérieur de la ville, ça a pris encore 21 jours, c'est encore 3 semaines. Parce que il y a la première chose, il faut briser les défenses. Et une fois qu'on est dans Yerushalayim, jusqu'à qu'on puisse arriver au Beth Amikdash, il y avait une redite. Mais c'était plus court, ça a pris que 3 semaines. D'accord. Donc, on comprend ici que quand on nous dit que c'est une histoire de 3 ans, etc., c'est des choses fondamentales. C'est qu'au-delà de la lutte armée, il y a une lutte symbolique. Et ça, quand on le regarde dans le monde aujourd'hui, on comprend très bien que les goïms qui luttent contre le peuple juif, pardon, ils luttent contre des choses symboliques. Il y a vraiment, c'est des choses symboliques. Il n'y a pas juste une guerre armée territoriale. Non, non, c'est des symboles contre lesquels ils sont en guerre. Et il ne faut pas croire que les antisémites ne savent pas ce qu'ils font et qu'ils sont inconscients des principes. Ils sont parfaitement conscients. Et ils luttent contre ça. Et savent, Rome, ils ont lutté contre ça aussi. Alors on nous dit comme ça, qu'il y avait de quoi nourrir le peuple de Jérusalem pendant 21 ans. Alors il dit, c'est quoi ces 21 ans? Parce qu'en fait, le siège ne pouvait pas durer plus que 21 ans. Ils avaient de quoi nourrir pendant 21 ans, mais le siège n'aurait pas pu durer plus longtemps. Pourquoi? Plus que 21 ans. Parce qu'ils auraient pu tenir 21 ans si les Birionim, ils n'avaient pas brûlé les entrepôts. Mais pourquoi 21 ans? Parce qu'on voit que, en fait, même dans Yerushalayim, ça leur a pris 21 jours. 21 jours, c'est encore une fois, c'est cette idée de 3 fois 7. 7, c'est une unité complète. 3 fois, c'est la répétition. Dans les penseurs juifs et dans les Sfarim, il y a marqué que chacun, on a 7 principes, on a 7 jours de la semaine, on a 7 sphirot, mais qu'en fait, chacune de ces sphirot, elle a en elle-même 7 parties. C'est-à-dire que, par exemple, si on va parler de la bonté, elle peut s'analyser sous 7 aspects. La rigueur, elle peut s'analyser sous 7 aspects, etc. Donc là, on a 3 fois 7, c'est qu'on a complètement 21 ans, c'était le moment de fragilité. C'était 3 Shemitot, parce qu'en fait, si on regarde, les Shemitot aussi, il y en a 7. On a 7 Shemitot qui donnent le Yovel. Donc, c'est vrai que chaque année de la Shemitah, ça correspond à un principe. Mais chaque Shemitah elle-même, quelque part, elle reflète ce principe. Donc, de la même manière qu'on a une année Avraham, une année Yitzhak, une année Yaakov, dans le cycle du Yovel des 7 Shemitot, on a une année, on a une Shemitah Abraham, une Shemitah Yitzhak, une Shemitah Yaakov. Et donc, si les Juifs, ils avaient survécu à 21 ans, ça veut dire que quelque part, ils avaient réussi à installer les 3 principes de base. Une fois qu'on a installé ces 3 principes de base qui sont Abraham, Chesed, Yitzhak, Din et Yaakov Emet, alors il n'y a plus de victoire possible. La victoire, elle est possible. La victoire des Romains, elle était possible que s'ils nous avaient empêchés de développer ces qualités-là, ces midotes-là. Et si en 21 ans, ils n'avaient pas vaincu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple juif, il avait réussi à installer ses principes. Une fois qu'il a installé ses principes, la défaite n'est plus possible. Et Béhémeth, le peuple juif, même malgré le siège, il avait les ressources pour survivre à cette épreuve et pour se développer malgré tout. On aurait pu installer un Yovel, une unité de temps entière de Avodat Hashem, malgré le siège. C'est quelque chose d'incroyable.
On sait sur quel travail il faut faire.
Alors, ça que j'ai. Alors, le travail, c'est ça qu'on. La première chose, c'est le chesed. Le chesed, c'est le point de départ, c'est le mouvement en avant. Le din, c'est la rigueur, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en avant. Mais si tous les jours on a un nouveau départ, je me dis, demain je vais aller à la tefila. Je vais me lever à la tefila honnête. Très bien. Donc demain tu te lèves à la tefila honnête. Et le jour d'après, c'est pas dit. Donc le fait que tu te sois lancé, ça ne garantit pas la stabilité. Il faut stabiliser. Mais la stabilité, ça empêche le développement. Parce que maintenant, on est concentré sur se lever honnête. Mais c'est ça que je m'occupe. Ma nécessité, ce n'est pas de créer. Ouais. Une fois que je me suis levé honnête la première fois, je stabilise. Mais je suis concentré sur le fait de me lever honnête. Donc il n'y a plus de place pour autre chose. Après, il y a le Emet qui vient établir un équilibre entre les deux nécessités. C'est ça la avoda. Ce m'a demandé, c'est quoi cette avoda-là, cette avoda triple-là? Oui, vous avez une question? Mais c'était impossible en fait, ils ne pouvaient pas parce que le peuple juif, il a déjà ça. Il a déjà ça en potentiel, il doit le développer. Pour le combattre. Et si, voilà. Et ça aurait pu aller jusqu'à 21 ans. Mais si au bout de 21 ans, ils n'avaient toujours pas vaincu, ça veut dire que le peuple juif il a réussi à développer une avodat Hashem dans. Pardon. Il avait pu développer une avodat Hashem dans le cadre du siège. Et une fois que dans le siège même, malgré le siège, par le siège, on avait installé une avodat Hashem, alors il n'y a plus de victoire des goyim possible parce qu'on a pris le siège, on en a fait un clé la avodat Hashem. On peut plus nous battre. Ça, en fait, aussi, c'est un grand moussard, en fait. C'est un grand moussard que quand on a des difficultés qui sont des difficultés insurmontables, les Chora, il y a un siège de 21 ans. Imagine en potentiel. Mais si le peuple juif, il avait malgré tout développé une avodat Hashem, alors il n'y avait plus de défaite possible. Il n'y avait plus de défaite possible. C'est un grand moussard.
C'est marrant parce que dans le texte, on n'a pas l'impression que c'est lié à une avoda ici. Enfin, du clan d'Israël, ça a l'air juste d'être que la Sgoula, au fait, de Rome, de pouvoir attaquer, c'était que pendant 21 ans et pas plus. Mais enfin, c'était Machmak, c'est indépendant d'une avoda du clan d'Israël, non?
Alors, je comprends pourquoi tu dis ça. Je comprends pourquoi tu dis ça parce que
Bah, pour l'image générale.
le Maharal, lui, il expose des systèmes. Il expose des systèmes, mais ça ne veut pas dire que ces systèmes, ils n'ont pas une signification. Le système, il est ce que le Maharal dit, c'est les mots du Maharal. Mais derrière les mots du Maharal, il y a aussi tout système à son sens. Le Maharal, il n'explique pas, il ne développe pas parce qu'il est là pour exposer le système. Moi, en tant que quelqu'un qui lit avec vous le Maharal, je propose un sens à ce système-là, la signification qui se cache derrière le système. Mais tu as raison que dans les mots du Maharal même, il ne développe pas, en tout cas pas ici, il ne développe pas ses idées, il les développe ailleurs. L'idée du 3, c'est toujours, c'est-à-dire que le Maharal, dans beaucoup d'endroits, il développe cette idée que le 3, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, que c'est le Chesed, le Din et le Emet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez le Maharal, c'est ce qu'on appelle en français l'intertextualité. Ça veut dire qu'il y a une résonance. Le Maharal, il développe des thèmes à certains endroits et il va les recycler ailleurs. Donc le fait
Amine.
qu'ici, il n'ait pas développé ces thèmes-là, ça ne veut pas dire qu'il ne les a pas développés par ailleurs et qu'en fait, il les utilise ici sans développer parce que
Mais
il
c'est ça.
considère que c'est déjà donné.
Aline, mais ma caméra, elle va chérir, mais ma caméra, quoi.
Oui, c'est vrai du chasse, mais c'est vrai du maral aussi.
D'accord.
D'accord. Maintenant, ça, c'est l'idée des 21 ans. Maintenant, le maral, il va reprendre, il va redévelopper l'idée des trois semaines. Ouais, des 3 semaines. Comme on a dit. Donc on avait une idée de 3 semaines, on a une idée de 21 ans. Et maintenant, si on regarde 21 ans, c'est 3 fois 7 années. Et on avait 3 riches. Ça veut dire que quelque part, chaque Shemitah, elle aurait été nourrie principalement par un des riches. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Il dit comme ça. Parce que quand on regarde l'idée de la famine absolue, c'est une famine de 7 ans. Comme on voit chez Yosef, Sheva Shanim Rav. Ouais. Ou Yengmara dans Sanhedrin qui dit une idée très intéressante. Elle dit, on peut avoir une famine de 7 ans, mais l'artisan n'aura pas faim. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde a besoin de l'artisan. Donc, ce que les gens, ils ont comme le peu de nourriture qu'ils ont, ils le donneront à l'artisan parce qu'ils ont besoin de l'artisan. Mais l'exemple de la famine ultime, c'est une famine de 7 ans. Et on a 3 riches. Donc on a en 21 ans, c'est 3 familles. Et on a 3 riches. C'est-à-dire que chacune de ces 7 années, ces 3 fois 7 années, il y aurait eu une dominance d'un des riches pendant 3 fois 7 ans. Et en fait, ce qui serait passé, c'est comme ça. C'est qu'à la première 7 années, je vais faire un peu un raccourci dans les mots du Maharal, à moins que vous voulez que je le lise dans les mots. Parce qu'il dit comme ça, puisqu'en 21 ans, il y en a un qui donne le blé et l'or, l'autre, il donne le vin et l'huile, le troisième, il donne le petit bois. Donc chacun, il nourrit en fait un tiers des 21 ans. Distribué, donc c'est 7 ans distribués sur 21 ans, puisque chacun, il nourrit un tiers. Donc si on divisait leur participation, on va dire que si pendant 21 ans, ils ont vécu de trois riches, c'est comme si chaque riche, il avait nourri tout le peuple pendant 7 ans. Comment ça marche? C'est qu'on va dire les 7 premières années, on va principalement être nourri de blé, mais les autres, ils vont contribuer une petite partie. Il y a besoin, on a du blé, on a besoin, on a beaucoup de blé, mais on a besoin d'un peu de vin, on a besoin d'un peu d'huile, on a besoin du bois. Mais la contribution principale pendant cette année-là, ça sera une contribution, ces 7 années-là, sera une contribution de blé. Les deuxièmes 7 années, la contribution principale, ce sera une contribution de vin et d'huile. Mais il faut un peu de blé et il faut un peu de bois. Les troisièmes séries de 7 ans, ce qui va se passer, c'est que il n'y a plus beaucoup de blé, il n'y a plus beaucoup de vin. Donc il y a surtout du petit bois. Avec le petit bois, on peut prendre des choses qui sont pas bonnes, des choses qui sont vieillies, et on peut les ramollir. Mais on a encore besoin d'une petite contribution de blé, une petite contribution de vin et d'huile. Donc en fait, chaque fois, il y avait trois séries de 7 ans où il y avait une contribution principale de un des riches. Ouais. Parce que ça permet de mieux distribuer, en fait. Ça permettait de mieux distribuer et ça permettait aussi à chacun de contribuer pleinement. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est comme ça que ça doit être d'un point de vue intellectuel. Un riche, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même. L'idée d'un riche, c'est quelqu'un qui n'a pas faim. C'est quelqu'un qui rassasie. Ce qui ose achir, c'est quelqu'un qui est rassasié. Et donc, quelqu'un qui peut nourrir le peuple pendant 7 ans, c'est un vrai riche. Puisque la Gemara nous dit que c'était trois riches, c'est-à-dire c'est pas des gens qui sont riches. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens que leur seule définition, c'est comment tu le définis? À lui, il est riche. Il y a des gens, à lui, ouais, c'est quelqu'un de sympa. Et il travaille là-bas, il fait ceci, il a beaucoup d'argent. Non, non, là, on parle de quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui, quelque part, il se suffit à lui-même. Donc, en fait, c'est pour ça que, puisqu'ils étaient riches, leur arrangement en tant que riche, c'est que pendant 7 ans, j'ai besoin de l'aide de personne. C'est-à-dire, c'est moi qui nourris. Et vous me donnez maintenant un peu de blé, un peu de petit bois. Et moi, la prochaine série, je vous rembourserai. Mais maintenant, c'est moi qui nourris, c'est moi le boss. D'accord. Et donc, donc chacun, il avait de quoi nourrir pendant 7 ans. C'est-à-dire ils étaient riches assez pour chacun nourrir le peuple juif pendant un cycle entier. Et ça aurait suffi. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, on dit qu'il y a trois cycles de 7 ans et qu'il y a trois riches. Et qu'en fait, il y a un premier cycle qui est le cycle du blé. Il y a un deuxième cycle qui est, pardon, le cycle du vin et de l'huile. Et un troisième cycle qui est le cycle du petit bois. Il faut réfléchir à quoi ça correspond, ces cycles-là. Mais c'était trois cycles, et donc il y avait trois pères nourriciers qui étaient adaptés chacun à un des cycles. Oui, c'est l'idée qu'on a dit, que c'est trois cycles, et donc il y a trois achérim, et il y a trois sortes de denrées qui seront fournies.
Dans le bois, on voit peut-être la rigueur, c'est sec.
Alors, comme quelqu'un.
L'autre, c'est
Alors,
entre les deux.
on va voir. Alors, comme quelqu'un nous dit, c'est qu'en fait, si on pouvait analyser, peut-être qu'on va le faire, mais les types de nourriture aussi correspondent à certains attributs caniré. Alors, c'est ça que le Maharal, il va développer. Mais avant de développer la question de la nourriture, il faut développer la question de ces trois riches. Si on nous dit qu'il y a trois cycles et que chaque cycle, il y a trois cycles de 7 ans, où il y a une lutte entre les Romains et le peuple juif, et le peuple juif, il survit grâce aux Hachérim. Alors, ces trois Hachérim, chacun correspond à un cycle. Donc, chacun, il a un caractère particulier, il a un caractère spécifique à ces 7 années-là. Alors il dit qu'en fait, quand on regarde la richesse, il y a trois. La richesse, elle vient hein, pour trois raisons. Il y en a un qui est riche parce qu'il a la bracha, Birkat Hashem Itashir. Et c'est celui qui est béni, il a la bracha. Et donc, pourquoi est-ce que je suis riche? Parce que c'est quand même qui a la bracha. Parce que Dieu, il veut qu'il ait beaucoup. La bracha, c'est le ribouille. Ouais. Le deuxième, c'est que il mérite d'être rassasié. Dieu, il a décidé que cet homme, c'est pas qu'il aura beaucoup, mais c'est qu'il ne manquera de rien. Afin qu'il ne manque de rien, on lui donne plein d'argent. Mais le but, c'est pas qu'il ait plein. Il y a des gens qui ont beaucoup parce que Dieu a décidé qu'ils auraient beaucoup. Il y a des gens qui sont riches parce que Dieu a décidé qu'ils ne manqueraient de rien, qu'ils soient rassasiés. Et le troisième, c'est que quelqu'un, il est riche parce que ça lui donne de la chachivout, de l'importance. Parce que le Maharal, il dit souvent ça. Il n'y a de chachivout que grâce à l'argent. Ça fait mal à entendre, mais là est la vérité. Et toujours dans l'histoire, les présidents de communauté, c'était les riches. Et donc Hachem, des fois, pourquoi est-ce qu'il donne la richesse à quelqu'un? Parce qu'il veut que cette personne, elle soit importante. En français, on dit c'est un notable. Un notable, c'est quand même qui a des moyens. Et donc, ces trois riches-là, ils correspondaient, chacun il avait la richesse de par un aspect spécifique. Et dit le Maharal, on est riche pour ces trois raisons-là. Il n'y a pas de quatrième raison que Dieu ait rendu quelqu'un riche. Ouais. Quoi? Non, même pas. Et donc, il y en a un qui est riche comme les Avot, ils étaient riches. Ouais. Les Avot, ils ont reçu la bracha. Et il y a des hommes qui sont à l'instar des Avot, ils reçoivent la bracha. Le deuxième, c'est quelqu'un qui a la richesse parce que pour qu'il ait la parnassa. Comme Chachamim ils disent dans Moed Katan, la vie, la longue vie, les enfants et la parnassa. Ça dépend pas du sroute personnel, ça dépend du mazal, ça dépend de pourquoi tu es né. Et il y en a, comme on a dit, qu'il a la richesse parce qu'il faut qu'il soit important. Et il dit là-dessus, le Maharal, qui aime kavod gdoula belo cher. Il n'y a pas de gloire et de grandeur sans richesse. Et ces trois riches-là, ils correspondaient à ça. Nagdimon. On nous dit quoi? Que le soleil, il a brillé pour lui. Il y a eu plus de soleil dans la journée que d'habitude. C'est ce qu'on appelle. Donc le soleil, il aurait dû se coucher. Le soleil, il est resté. Il a brillé plus longtemps pour lui. Ça, c'est la bracha. La bracha, c'est ce qu'on appelle. La bracha, c'est ce qu'on appelle la tosefet. C'est le surplus. Ouais. La bracha, c'est le surplus. Ça, c'est la bracha. Donc, on a Nachdiman Ben Gurion, il a reçu la bracha. Pourquoi? Parce que il devait recevoir le surplus. C'est la bracha, c'est la Tosefet. Le deuxième, c'est Kalba Savua. C'est quoi? C'est celui qui est rassasié. La satiété, ça vient de quoi? Donc, Kalba Savua, c'est quoi? D'où elle vient sa bracha? Sa bracha, elle vient parce qu'Hachem, il veut qu'il ne manque de rien. Comme on a dit, qu'il y en a qui sont riches parce qu'ils ont la bracha, il y en a qui sont riches pas parce qu'ils ont une bracha particulière, mais parce que Dieu a décidé pour eux qu'ils ne manqueraient de rien. Et on a Ben Tzitzit Akeset. C'est quoi? C'est l'homme qui est chashuv. Il a son talit, elle est posée, il a son rond de table parmi les Gdolei Romi. Donc lui, sa richesse, c'est lui un homme influent. Donc on a quelque chose qui vient mitzad la bracha, quelque chose qui vient mitzad la parnassa, et le troisième qui vient mitzad la chashivut. La chashivut et le kavod. Et logiquement, si on regarde, ça correspond aussi aux trois avot. Si on regarde, ça correspond aux trois avot. La bracha, le icar de la bracha, le premier qui a vraiment la bracha, c'est Yitzhak. C'est Mea Shearim, etc. Il a trouvé Mea Shearim, etc. Le icar de la bracha, c'est Yitzhak. Ça, le Maharal, il développe dans plein d'endroits. La chashivut, c'est Israël, c'est qui s'arrita, t'as un sar. Ouais. T'es un ministre, tu es un noble. Et Avraham, il est pas chasser. Comment ça s'appelle? Koltov. Ouais, c'est quelqu'un qui est nédive, c'est quelqu'un qui nourrit Avraham. Avraham, c'est vraiment comme Kalba Savoie. C'est Avraham, c'est celui qui a beaucoup, qui se sert de ce beaucoup qu'il a pour se nourrir, mais pour nourrir en fait le monde entier. Donc Avraham et Kalba Savoie, ils se ressemblent. Ils nourrissent le monde. Donc leur richesse, elle est là pour nourrir. Israël, sa richesse, c'est pas pour se nourrir. C'est justement pour qu'il ait de l'importance. Et Yitzhak, lui, c'est celui qui a la bracha, comme on voit que c'est quand il a planté, Vaimatse Mea Shearim. C'est-à-dire qu'en fait, il a planté et chaque épi, il était 100 fois plus lourd que d'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a la bracha. Quand j'ai une chose qui produit plus que d'habitude, ça, c'est un guéder. C'est un guéder de bracha. Ça, c'est un guéder de bracha. Donc on voit que ces trois riches correspondent chacun à un mode de bracha et chaque à un mode de richesse, et que ces richesses, elles correspondent encore une fois à ce thème qu'on a énoncé de Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord. Alors si on regarde encore une fois, et si on continue, on va voir comme ça. Le premier, il voulait les nourrir avec du bois. Ça correspond à la bracha. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, le petit bois, pour en avoir assez, il faut en avoir beaucoup. Donc le petit bois, ce n'est pas la chose la plus importante au monde. Mais quelqu'un qui est riche en petits bois, c'est quoi? C'est quelqu'un qui en a des tonnes. Pour avoir assez de petits bois, il faut avoir 6 fois plus de petits bois que ce qu'on a de blé. Donc ça, c'est vraiment la bracha. C'est pas forcément qu'on a la meilleure chose au monde, mais ce qu'on en a, on en a énormément. Et ça, c'est un signe de bracha. Donc Nagdiman Ben Gourion, il avait du petit bois. Et ça, c'est la bracha. Mais celui qui a du blé et de l'orge, c'est chachouv, mais c'est pas, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bracha là-dedans. J'ai assez de blé, j'ai pas trop, j'ai pas beaucoup, j'ai du blé. Donc c'est pour ça que on n'a pas trouvé donc celui qui avait la bracha, Nagdiman Ben Gourion, il avait du petit bois. Le deuxième riche, c'était quoi? C'est Ben Tzitzit HaKesed, qui est la chachivut. Alors lui, il donne des choses chachouvot. C'est l'huile et le vin, qui sont des choses qu'on trouve à la table des rois. C'est des choses qui signifient l'importance. Donc, Ben Tzitzit HaKesed, qui était, dont sa richesse, elle était là pour qu'il soit important, ce qu'il était en mesure de fournir, c'est des choses importantes, des choses nobles. Et le troisième, c'est Kalba Savoie qui donne le blé, et ça, on sait. Ouais, on sait que le blé, c'est ça qui nourrit. Le blé, il nourrit. L'aliment principal qui nourrit, c'est le blé. C'est le blé. Donc, encore une fois, chacun y donnait quelque chose qui lui correspondait. C'est-à-dire, encore une fois, on parle d'histoire, on parle de Kalba Savoie et de Ben Tzitzit HaKesed et de Nagdiman Ben Gourion. Mais on parle, c'est pas des histoires. C'est que, comme on a dit, les 3 années de le siège des Romains, c'était une lutte contre l'essence même du peuple juif. Et Hachem, il envoie à ce moment-là trois riches qui incarnent 3 modes d'intervention de Dieu dans le monde, 3 modes d'existence, la bracha, la chashivut, le kavod, et la sviya, le fait d'être rassasié comme Avraham qui nourrissait le monde, pour que les Juifs y comprennent ce qui est en jeu. Les Juifs, ils auraient dû comprendre que si c'est ces 3 Juifs-là qui prennent en charge, que chacun il a un nom particulier, que chacun il fournit une denrée particulière, c'est pour comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qui est en jeu, qu'il faut travailler justement sur ces 3 aspects du peuple juif, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Chesed, Din et Emet, et ainsi de suite. Le problème, comme on va voir après, c'est que les gens avaient des béryonymes, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils disent non, non, il n'y a pas de travail, on ne va pas se travailler sur nous-mêmes. Il n'y a pas de travail ici. On est dans l'histoire. Il y a un vieux vicoire dans le peuple juif, mais pas seulement. Il y a ce qu'on appelle l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire des rois et l'histoire des guerres. Ça, c'est l'histoire qu'on nous a appris avec Charlemagne et Charles Quint et Charles Martel qui a repoussé les Arabes à Poitiers. Ça, c'est l'histoire qu'on nous apprend. Ça, c'est l'histoire qu'on nous apprend. Mais l'histoire du peuple juif, elle ne se déroule pas forcément comme ça. Il y a un midrash qui raconte comme ça que quand Jacob, il a fait le rêve de l'échelle, donc il a vu des peuples qui montent et qui descendent. Et il a vu Esav qui monte, qui monte, qui monte et qui ne descend pas. Alors Hachem lui a dit, monte toi aussi. Monte toi aussi. Alors Jacob, il a dit, mais si je monte, je vais descendre comme les autres. Hachem a dit, je te promets que tu ne descendras pas. Et Jacob, il a eu peur, il n'est pas monté. Alors Hachem lui a dit, puisque tu n'es pas monté à l'échelle, tu seras en dessous de toutes ces nations. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit la chose suivante, en fait. Il y a l'échelle, c'est l'échelle de l'importance dans l'histoire. Il y a dans le monde, il a été dirigé par des nations. Et ces nations, elles ont donné, elles ont impacté le monde, elles ont rentré des idées dans le monde. C'est ces peuples-là qui ont fait l'histoire. Et Yaakov, il a eu le choix aussi que le peuple juif, il dirige le monde d'un point de vue technique et qu'il fasse l'histoire. Et Yaakov, il a dit, mais si ceux qui font l'histoire, ils finissent par péricliter. Alors Hachem lui a dit, bah, du coup, tu ne feras pas partie de l'histoire. L'histoire, elle se fera sans toi. Toi, tu resteras en bas de l'échelle. Eux, ils montent et ils descendent. Toi, tu restes là. L'histoire, elle se fera par-dessus ta tête. Alors, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais tes choses là, tu fais tes mitzvot. Tu fais ce que tu as à faire. Des fois, on pourrait imaginer que la guerre aussi, c'est une mitzvah. Mais on ne fait pas la guerre d'un point de vue historique. On ne fait pas la guerre parce que la guerre, elle fait partie de l'histoire. On fait la guerre parce que c'est une mitzvah. Parce que le peuple juif, jusqu'à Biat HaMashiach, il n'est pas sur l'échelle. Et donc, le peuple juif, les gens à Jérusalem, ils auraient dû comprendre qu'il y a une lutte fondamentale, symbolique, philosophique entre les Romains et le peuple juif. Il y a une lutte, pas contre les Juifs, il y a une lutte contre le Beth Amikdash. Et comment est-ce qu'on lutte? Par des moyens spirituels. Mais les Birionim, ils pensaient que le peuple juif, sa place était une place historique. Et donc, il fallait aller à la guerre, quoi qu'il en soit. Rami leur ont dit non. Mais il y avait tous les ingrédients, ils étaient là. Tous les ingrédients, ils étaient là pour que le peuple juif, il se développe spirituellement pendant le siège. En 21 ans, on aurait pu fonder un peuple juif incroyable. Mais au lieu de ça, on a décidé de faire la guerre. Au lieu de travailler, de développer un judaïsme du siège, on a fait la guerre. Et ça, c'est ça qu'on paye jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc voilà.
Ça veut dire en fait que finalement, en ces 21 ans, comment dire, il y aurait eu un travail qui aurait permis d'être Pétaken, les Sibot, enfin la Sibat Sénatrinam finalement. Enfin, profondément, ce serait ça. C'est-à-dire en se rattachant au Avot, au Shorashim d'Avot, etc., au Midot des Avot, on aurait été Pétaken la cause du Khorban.
Oui, c'était une
D'accord.
opportunité de réparer, d'arranger, de progresser. Et on ne l'a pas pris. On ne
Mais
l'a pas pris.
c'est intéressant. Ça veut dire que les Midot des Avot, quelque part, serait antique, enfin, en elle-même, elle porte une réparation de la Sénatrinam. Si on s'était attaché correctement à ces midot-là, on n'aurait pas eu de Sénatrinam, quoi.
C'est les ingrédients. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un problème, il y a toujours la même démarche. Première démarche, c'est d'identifier le problème. Maintenant, une fois qu'on l'a identifié, on identifie peut-être aussi une solution. Mais ça, c'est de l'idée. Comment est-ce qu'on passe de l'idée à la réalisation? Alors, il faut d'abord un mouvement en avant, comme Abraham, Lech Lecha. Après, il faut stabiliser ce mouvement en avant. Le problème, comme on a dit, c'est-à-dire que c'est pas les midot des avot, ils nous permettent de résoudre pas le problème spécifique de Sinatrinam. Les avot, ils nous donnent un plan. Comment est-ce qu'on résout n'importe quel problème? Il faut un départ en avant, il faut une Lech Lecha Me'Artzecha, il faut une stabilisation, parce que la révolution, elle finit. Toutes les révolutions, quand elles ne sont pas stabilisées, elles finissent par manger ceux qui ont fait la révolution. On peut penser à la révolution russe, la révolution chinoise, la révolution iranienne. Elles finissent en fait par s'auto-consommer. Donc il faut la stabiliser. Mais trop de stabilisation, c'est un embourgeoisement. Donc il faut après une mesure. Ça, c'est les instruments, c'est les démarches, c'est l'attitude avec laquelle on résout les problèmes. C'est-à-dire que les midot d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, elles ne permettent pas de résoudre tel problème ou tel problème. Elles nous apprennent comment est-ce qu'on résout tous les problèmes. C'est
La
les moyens de
stabilisation, c'est
résoudre les problèmes. Ouais.
Yitzhak et ce rééquilibrage, c'est Yaakov, hein,
C'est
ce qu'on
Yaakov,
veut
c'est
dire.
ça, c'est Emmet, Emmet.
D'accord.
D'accord. Alors, Le maral, il continue, il dit comme ça. Il dit comme ça. Et si on regarde cette idée des trois Hachérim, on va voir la chose suivante. Il y a trois sortes de Parnassa. Quand on parle de Parnassa, il y a trois types de Parnassa. Première Parnassa, c'est de quoi se nourrir. Hachem, il nous a donné le pain, parce que le pain, c'est la vie de l'homme. Comme il a marqué, Kilo ala lechem levado yichya adam. Ce n'est pas le pain seulement, mais le pain, hein, c'est ça la base. Le deuxième, c'est la parnassa qu'on a plus que ce qu'on a besoin. Le pain, c'est la vie. Le pain, c'est la vie. Mais après, on a une parnassa qui est plus que ça. C'est une parnassa, on va dire, de loisir. Il nous donne des choses qu'on n'a pas besoin, mais c'est pour notre plaisir. Et comme le vin et l'huile. Le vin et l'huile, c'est des choses que si j'en ai pas, je peux vivre. Je peux vivre sans vin, je peux vivre sans huile. Ouais. Quoique les Tunisiens, je ne suis pas sûr. Mais techniquement, on pourrait. Ouais. Mais c'est en plus. Et le troisième, c'est une chose que j'ai pas de profit de la chose, mais avec elle, je peux résoudre des problèmes. Il y a des choses que ça ne me sert à rien en soi, mais ça me permet d'arranger d'autres choses. Parce que tout ce qu'Hachem il a fait dans le monde, c'est imparfait. Toute chose dans le monde, elle a besoin d'un tikkun. Hachem, il a créé le blé. Mais le blé seul, on ne peut rien en faire. Il faut le cuire. La viande, il faut la cuire. Tout a besoin d'être. Donc Hachem, il peut nous donner beaucoup. Mais on a aussi besoin de moyens. De moyens pour. On a la chose, on a besoin de moyens pour la préparer, pour être métaken. Donc il y a trois sortes. Hachem, il nous donne trois choses. Il nous donne de quoi vivre. Il nous donne plus que ce qu'on a besoin. Et enfin, il nous donne le moyen d'utiliser ce qu'on a. C'est trois sortes de parnassot différentes. Et donc, on a dit qu'il y en a un qui pouvait donner la vie elle-même. C'est le blé. C'est la vie elle-même. C'est la vie. Le deuxième, il donne pas la vie. Mais il donne des choses qui sont de l'ordre de l'agrément. Et le troisième, il dit. Je donne des choses qui sont. Moi, je ne peux pas donner ce qui est élémentaire. Je peux donner. Ouais, on a la vie, on a le plaisir. Ces deux choses-là, la troisième personne, elle est incapable de les fournir. Mais elle peut utiliser les ingrédients fondamentaux qui ont déjà été fournis et il peut en faire quelque chose de bon. Encore une fois, Avraham, c'est la vie. Yitzhak, on voit que Yitzhak, il voulait Matamim. C'est Matamim. Ouais, Avelit Saïd, on voit des Matamim. Alors que. Avraham, il est plus identifié au ougot, au pain. Ouais, c'est Avraham. Avraham, c'est qui on trouve la matza. Ouais. Bah, si ougot, c'est quoi ougot? C'est de la matza. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'Avraham, il donne la vie. Yitzhak, il a déjà la vie. Chez lui, il y a plus le principe de bracha, de matamim. Ouais, bah, fais-moi des matamim, des plaisirs. Yaakov, il reprend ce qui a déjà été donné. Et il est métaken. Chez Abraham, il y a Ishmaël. Il y a quelque chose qui ne va pas. Chez Yitzhak, il y a Esav. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tel quel, ce n'est pas digeste. Yaakov, il reçoit ça et il est métaken. Et il est métaken. Il l'utilise et il l'améliore. Donc, encore une fois, c'est ces trois thèmes, mais sous une différente prina, un différent aspect. Ouais. D'accord. Alors il dit oui, mais si on parle du plaisir, alors le vin c'est du plaisir, mais la viande aussi. Il dit oui, c'est vrai que la viande c'est du plaisir, mais le vin, ouais. D'accord. Alors, voilà. Mais il dit ici, pas comme ce que j'ai dit, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, il dit que Yitzhak c'est le bois. Parce qu'en fait c'est l'inverse, c'est que Yitzhak, oui, c'est les bois de la Hakeda. J'aurais pensé différemment, mais j'ai fait une erreur. En fait, j'étais un peu vite. Et je me suis embrouillé. Il dit comme ça que Yitzhak, c'est l'inverse. C'est que Yitzhak, il utilise ce qu'il a déjà. C'est Yaakov, il peut créer. Il peut rajouter. C'est Yeshli Kol. Yeshli Kol. Mais Yitzhak, lui, il utilise. C'est l'inverse. C'est pas comme j'ai dit. Yitzhak, il utilise. C'est le bois et c'est la bracha. Bon. D'accord. Alors, le Maharal, il continue. Il dit comme ça. Si tu veux être omed al sod divrei chachamim, encore une fois, c'est que jusqu'à là, tout ce qu'on a développé, c'est pas le sod, c'est presque le pshat. Mais si, il dit comme ça, Imatarotze la mode al sod divrei chachamim, Tida ki belu gimala shirim d'avoir muflag me'od bechokhma. Il y a quelque chose de très profond. Jusqu'à là, on a développé le pshat. Là, on va rentrer sur le sod. C'est quoi? Que ces trois riches-là, chacun il avait une bracha particulière, jusqu'à qu'ensemble, ils ont eu toutes les brachot. Ils ont eu toutes les brachot. D'ailleurs, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Amazon? Bakol, mikol, kol, ken yevarech otanu. C'est quoi toutes les brachot? Il y a une bracha de Bakol, c'est Abraham. Mikol, c'est Yitzhak. Kol, Kol, c'est quoi? C'est Yaakov. Et nous, on veut les trois brachot. Ken yevarech otanu. Et ces trois riches-là ensemble aussi, ils avaient les trois brachot. Pourquoi? Parce qu'il y a une bracha qui est mitzad midat hachesed. Que Akadosh Baruch Hu, il fait le chesed avec un homme. Ouais. Et il y a un qui est la richesse, c'est mitzad adin. Il y a la richesse qui vient à mitzad adin. Ouais. Comme on dit qu'un homme riche, on l'appelle un gvir ou gibor. Et le troisième, c'est Berachamim. Et là, il dit, si on regarde comme ça, si on regarde par cet aspect-là de Din, Chesed, Berachamim, alors on peut dire encore quelque chose. C'est que si on regarde. Alors, une seconde. Il dit comme ça, il y a un certain aspect où le bois il correspond à Midata Chesed. Pourquoi? Parce que le bois, il n'a pas de raison. Le bois, il n'a pas de raison. Le bois, il n'a pas de goût, il n'a pas de ta'am. Et le chesed non plus, il n'a pas de ta'am. Le bois, il fait référence. Donc, on avait dit que d'un certain aspect, on pouvait distinguer les choses différemment. Mais si on regarde, en fait, le bois, quelque part, il a une ressemblance particulière au chesed. C'est quoi? C'est que le bois, il n'a pas de goût. Et le chesed, il n'a pas de raison. Et en Lashon HaKodesh, on dit les deux s'appellent ta'am. C'est le ta'am. Quoi? Il donne, mais il n'en a pas. C'est pas qu'il sert à rien. Il transforme. D'accord. Alors, c'est un peu intéressant ce qu'il dit ici. Il dit, le blé, quelque part, il vient mitzadadine. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre sans blé. Et le troisième, c'est le hachir qui est mefarnas de Mishra vechamra. Ça, c'est mitzad harachamim parce que ça, c'est vraiment en plus. C'est vraiment en plus, mais c'est nécessaire. Donc, il y a des choses qui sont gratuites, il y a des choses qui sont obligatoires, il y a des choses qui sont nécessaires. C'est-à-dire que nécessaire, ça veut dire quoi? C'est que j'en ai besoin, mais je ne mourrai pas sans. Donc, l'huile et le vin, hein, c'est des choses qui sont nécessaires à l'homme, mais elles ne sont pas obligatoires. Donc, c'est quelque part nécessaire, quelque part c'est en plus. Et donc, ça correspond à la rachamim. C'est quoi la rachamim? C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, j'aime donner un exemple, c'est le suivant. Si quelqu'un travaille pour moi, je dois le payer. Ça, c'est le dîn. Si je vois quelqu'un dans la rue qui a besoin d'argent et que je lui donne, ça, c'est le chesed. Si mon fils il revient et qu'il a eu un très bon bulletin, un bulletin exceptionnel, quelque part, si je lui donne pas une récompense, ça sera pas sympa. C'est pas normal. Il a travaillé comme un malade. Il est arrivé avec des félicitations. Il mérite une récompense. Maintenant, si je lui donne pas une récompense, est-ce qu'il pourra me traîner au tribunal? Non, il pourra pas. Ça, c'est la rachamim. La rachamim, c'est pas entièrement gratuit, mais c'est pas dû non plus. Donc, il dit, l'huile et le vin, c'est entre les deux. C'est pas absolument superflu. C'est pas absolument nécessaire, c'est entre les deux. Donc ça correspond à la rachamim. Donc si on résume sa conception à lui, si on résume la conception qu'il développe ici, même qu'il y a d'autres endroits où il développe différentes conceptions, mais ce qu'il développe ici, c'est comme ça. C'est qu'il y a trois dimensions fondamentales dans le peuple juif. Une dimension de chesed. Chesed, c'est celui qui crée, c'est celui qui donne ce qui n'est pas nécessaire, celui qui donne ce qui est en plus, celui qui donne la vie. Il y a celui qui donne ce qui est absolument nécessaire. Si je vois quelqu'un qui est en train de mourir de faim, que je ne donne pas à manger, alors c'est pas que j'ai manqué de chesed, c'est que je suis un rachat. Et il y a celui qui donne en plus. Et ça correspond à ces trois aspects-là, et ces trois riches-là correspondent à ces trois aspects-là. Donc, en fait, c'est ça l'idée qu'on a développée, c'est que ces trois riches, ils incarnaient trois aspects du peuple juif, trois dimensions du Lahashpa, du Shefa divin. Et le peuple, les Juifs, ils auraient dû comprendre ça, ils auraient dû profiter de ça et se servir de la bracha et du chesed d'Hachem pour prospérer malgré le siège. Et ça aurait résolu le siège. Ça aurait résolu le siège. Parce que le siège, c'est une lutte spirituelle avant d'être une lutte physique. Et si on s'était laissé inspirer par ce que Hachem nous donnait, alors on aurait pu résoudre ces problèmes. On aurait pu résoudre ces problèmes. Mais on a choisi de ne pas le faire. Ouais. Mais quand on regarde, c'est intéressant, quand on regarde dans ce texte du Maharal et dans d'autres textes du Maharal, chaque fois, le Maharal, il explique le rapport entre les choses de manière différente. Pourquoi? Parce que si on regarde, Avraham et Yitzhak, ils ont souvent fait les mêmes choses. Avraham et Yitzhak, ils ont beaucoup fait les mêmes choses. Mais chacun, il l'a fait dans une démarche complètement différente. Avraham, il a fait des puits. Yitzhak aussi, il a fait des puits. Avraham, il a semé. Yitzhak aussi, il a semé. Avraham, il est descendu. Yitzhak aussi, il est descendu. Mais les démarches, elles sont complètement différentes. Donc, quelque part, en fait, dans chacune de ces denrées, le blé, l'huile, etc., on peut regarder comme ça et on peut regarder comme ça. Donc c'est pour ça que si quelqu'un il voit dans le Maharal qu'une fois il a expliqué le rapport entre les personnes et les denrées d'une certaine manière et qu'après il explique à l'envers, ce n'est pas un grand problème. Le Maharal le fait parce qu'en fait, y a des nekoudot mitralfot et c'est très compliqué de tout résoudre comme ça sur un pied. Mais ces aspects-là, ils existent. D'accord? On va s'arrêter là. Ok.
Eh bien, ben merci beaucoup. Je suis
Ah,
off.
pas le tout.
Il reste off. Bon, il y a chaud la
Oh.
semaine prochaine, non, il n'y a pas de Benaz Banim.
En principe, il n'y a pas de Benazmanim, non.
D'accord, ok. Merci beaucoup, il reste off.
Ah, top, pas le tout.